mais les champs sont ouverts. Ce ne sont pas des jardins bien clos, entourés de murailles épaisses, dont le maître est le seul propriétaire, et où ils puissent seuls entrer. Ils sont ouverts, placés au centre du monde, parmi le monde. Tous peuvent s'en approcher, tous peuvent y pénétrer, tous et tout. Oh, il n'y a pas seulement l'ivraie, comme mauvaise semence. L'ivraie pourrait être le symbole de la légèreté amère de l'esprit du monde. Mais voilà qui naissent, jetées par l'ennemi, toutes les autres semences. Voici les orties, voici le chien-dent, voici la cuscute, voici les liserons, voici enfin la ciguë et les poisons. Pourquoi? Pourquoi? Que sont-ils? Les orties, les esprits piquants, indomptables, qui blessent par surabondance de venin et qui donnent tant de désagréments. Le chien-dent, les parasites qui épuisent le maître et qui ne savent qu'importuner et sucer, profitant de son travail et faisant du tort aux personnes de bonne volonté qui tireraient réellement un plus grand fruit si le maître n'était pas troublé et dérangé par les soins qu'exige le chien-dent. Les liserons inertes qui ne s'élèvent de terre qu'en profitant des autres. La cuscute, tourment sur le chemin déjà pénible du maître et pour les disciples fidèles qui le suivent. Il s'accroche, s'enfonce, déchire, griffe, apporte méfiance et souffrance. Les poisons, les criminels parmi les disciples, ceux qui en arrivent à trahir et à éteindre la vie, comme la ciguë et les autres plantes toxiques. Avez-vous jamais vu comme elle est belle avec ses petites fleurs qui deviennent des petites boules blanches, rouges, bleu-violet? Qui dirait que cette corolle étoilée, blanche ou à peine rosée avec son petit cœur d'or, qui dirait que ces coraux multicolores, si semblables aux autres baies qui font les délices des oiseaux et des enfants, peuvent arriver à maturité, donner la mort? Personne, et les innocents se jettent dessus. Ils les croient bons comme eux-mêmes, ils les cueillent et en meurent. Ils les croient tous bons comme eux. Oh, quelle vérité qui élève le maître et condamne celui qui le trahit! Comment? La bonté ne désarme pas? Elle ne rend pas le malveillant inoffensif? Non, elle ne le rend pas tel, car l'homme tombé est devenu la proie de l'ennemi et est insensible à tout ce qui est supérieur. Tout ce qui est supérieur change pour lui d'aspect. La bonté devient une faiblesse qu'il est permis de piétiner et qui exacerbe sa malveillance, comme chez un fauve, la volonté d'égorger est exacerbée par l'odeur du sang. Et même le maître est toujours un innocent, et il laisse le traître l'empoisonner, car il ne peut penser qu'un homme puisse être le meurtrier de celui qui est innocent. Chez les disciples, les chants du maître, viennent les ennemis. Ils sont si nombreux. Le premier, c'est Satan. Les autres, ses serviteurs, à savoir les hommes, les passions, le monde et la chair. Voilà que le disciple, il l'atteigne plus facilement parce qu'il ne reste pas tout près du maître. Mais il se tient en équilibre entre le maître et le monde. Il ne sait pas. Il ne veut pas se séparer de ce qui est monde, chair, passion et démon, pour être tout entier à celui qui l'amène à Dieu. Sur lui, ils répandent leurs semences, le monde, la chair, les passions, le démon, l'or, la puissance, la femme, l'orgueil, la peur d'être mal jugé par le monde, l'esprit d'utilitarisme. Les grands sont les plus forts. Voici que je les sers pour les avoir comme amis. Et on devient criminel, et on se damne pour ces misérables choses. Pourquoi le maître qui voit l'imperfection du disciple, même s'il ne veut pas se rendre à la pensée « celui-ci me donnera la mort », ne l'exclut-il pas immédiatement de sa suite? C'est ce que vous vous demandez, parce qu'il est inutile de le faire. S'il le faisait, cela ne l'empêcherait pas de l'avoir comme ennemi, doublement ennemi et plus acharné par la rage ou la douleur d'être découvert ou d'être chassé. La douleur, oui, car parfois le disciple mauvais ne se rend pas compte qu'il est tel. Le travail du démon est tellement subtil qu'il ne le remarque pas. Il devient un démon sans soupçonner qu'il subit cette transformation. La rage, oui, la rage d'être connu pour ce qu'il est quand il n'est pas inconscient du travail de Satan et de ses adeptes, les hommes qui tentent celui qui est faible par ses faiblesses pour enlever du monde le saint qui les offense à cause de leur méchanceté qu'il compare à sa bonté. Et alors, le saint prie et s'abandonne à Dieu. « Que soit fait ce que tu permets qu'on fasse, » dit-il. Il ajoute seulement cette réserve, pourvu que cela serve à ton but. Le saint sait que l'heure viendra où la mauvaise ivraie sera séparée de sa moisson. Par qui ? Par Dieu lui-même, qui ne laisse pas faire au-delà de ce qui est utile au triomphe de sa volonté d'amour. Matthieu dit, « Mais si tu admets que c'est toujours Satan et ses adeptes, il me semble que la responsabilité du disciple en est diminuée. » Ne le pense pas. Si le mal existe, le bien aussi existe, et il y a dans l'homme le discernement et avec lui la liberté. Judas ajoute, « Tu dis que Dieu ne laisse pas faire au-delà de ce qui est utile au triomphe de sa volonté d'amour. Donc, cette erreur est utile s'il la permet, et elle sert au triomphe de la volonté divine. » Et tu conclus, comme Matthieu, que cela justifie le crime du disciple. Dieu avait créé le lion sans férocité et le serpent sans venin. Maintenant, l'un est féroce, l'autre est venimeux. Mais Dieu les a séparés de l'homme pour cette raison. Médite sur cela et fais-en l'application. Rentrons. Le soleil est déjà fort, trop fort comme pour un commencement d'orage, et vous êtes fatigué par une nuit sans sommeil. Élie dit, « La maison a en haut une pièce grande et fraîche. Vous pourrez y reposer. » Il monte par l'escalier extérieur, mais seuls les disciples s'étendent sur les nattes pour se reposer. Jésus sort sur la terrasse, laquelle est ombragée dans un coin par un rouvre très haut, et il s'absorbe dans ses pensées.